Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
L'after avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. Merci beaucoup d'être là ce soir sur RMC, de passer une oreille peut-être en rentrant de dîner, en sortant en soirée. Vous êtes là, vous écoutez un peu le débat et peut-être l'intégralité en podcast demain. Merci en tout cas également de commenter sur le direct studio ou sur Twitter le hashtag RMC live. C'est un gros week-end de foot, surtout un gros dimanche, on va pas se mentir. Classico et derby d'Italie demain au programme. Salut Fred Hermel.
Hola chicos.
Et salut Yoann Crochet.
Salut Fredo.
Salut Fred.
Salut à tous.
Salut les mecs.
Le classico, le vrai, le seul, l'unique, c'est demain. Barça-Real à 21h. Fredo, dernier espoir de titre pour le Real qui a 9 points de retard ou même pas? On n'y croit plus.
Si le Real gagne, il n'y aura plus que 6 points.
Ouais.
Et si le Real perd, c'est 12 points, c'est fini. Quoi. Et même, je pense que s'il y a match nul, 9 points d'avance, franchement, c'est le seul espoir pour le Real d'avoir encore quelque chose à dire dans cette Liga, c'est de l'emporter au Camp Nou demain à partir de 21h. Il n'y a pas d'autre solution.
Vinicius contre Araújo, c'est ça le match?
Ah, mais vous savez que Araújo, Araújo en français,
ouais,
bah, joue défenseur.
Non,
mais c'est trop dur. Je préfère comme ça parce que c'est tellement dur à prononcer que vaut mieux le prononcer à la française. Ouais. Moi, j'aime pas les gens qui essaient de le prononcer.
Ouais. Araújo.
Alors, en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est que Araújo joue défenseur central tout le temps. Sauf face au Real, il joue latéral droit pour être face à Vinicius. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est Jules Koundé qui normalement joue latéral droit, qui prend la place d'Araújo en défense centrale, et c'est Araújo qui prend Vinicius en perso, quoi, à l'ancienne, quoi. Enfin, c'est-à-dire et ça a marché. L'individuel, mais bien individuel, tu vois, du collet serré, quoi, tu sais, comme chantait Philippe
Lavier. Marquage et la culotte.
Oui, ça et la culotte et plus infinité. Enfin, c'est un truc et ça a marché. Parce que les deux derniers matchs, la Super Coupe d'Espagne et le match aller de demi-finale de Coupe du Roi, que des victoires du Barça et Vinicius qui a été grandement dérangé par le marquage d'Araújo. Ce qui a fait dire ce matin à Carlo Ancelotti dans la conférence de presse.
Il va le mettre de l'autre côté.
Il a dit, oui, d'ailleurs, je pense le mettre à droite, mais il déconne, hein, c'est vrai. Par contre, non. Enfin, tu sais, quand Carlo, même quand il plaisante, il y a toujours quelque chose de vrai.
Il est capable.
Il va pas le mettre à droite.
À un moment donné, tu vas voir.
Mais il va demander, en fait, beaucoup plus de permutation, beaucoup plus de mouvement avec Karim Benzema, avec Valverde qui sera lui à droite. Je pense qu'il y aura les trois devant vont beaucoup beaucoup bouger parce que sincèrement sur les deux derniers matchs, les deux derniers Real Barça ou Barça Real, on a vu Vinicius très en difficulté par le marquage à Araújo. Donc il faut trouver une solution tactique. Et ce qu'on avait pu reprocher à Ancelotti lors de ces deux rencontres, c'est de ne pas avoir réussi de trouver une solution tactique. Et ben demain, c'est un gros match pour Ancelotti aussi à ce niveau-là. La clé du match, vraiment, si Vinicius, qui est le meilleur joueur du Real depuis quelques semaines et l'un des meilleurs joueurs du monde, ça c'est évident, si Vinicius peut être Vinicius à 80% au moins, il y a une chance pour le Real.
Si Vinicius n'est pas Vinicius,
il n'y aura rien.
Si Vinicius peut être Vinicius junior et pas senior contre le Barça, ça peut le faire.
Exactement, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand t'as le poids d'Araújo sur toi, qui est un joueur absolument fantastique, hein,
l'Uruguayen. Ouais, c'est un bon défenseur.
Kevin, Lio, vous donneriez un avantage à qui? Un peu comme le dit Fred, plutôt Barça au vu de la saison et des affrontements entre les deux.
Ouais, puis c'est le fameux match à 6 points, mais celui qui est devant, il a quand même énormément d'avantages. C'est-à-dire que voilà, le Barça peut clairement se permettre une déconvenue. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'ils ont envie, hein, mais je veux dire, même en cas de catastrophe, le Barça aura quand même une avance conséquente. Alors que voilà, le Real, c'est all or nothing.
C'est ça.
Todo o nada.
Tu vois, tu l'as tenté en anglais là aussi quand même, et c'était pas ouf non plus. Un match particulier, Fredo, ambiance particulière aussi sur ce classico. Il y a les histoires de corruption d'arbitre pour le Barça, le Real qui est entré dans la danse depuis la semaine dernière en se portant partie civile. Est-ce que ça rend ce classico un peu particulier?
Oui, parce que il y a des représailles. de la part du Barça depuis que le Real a fait cette réunion extraordinaire du comité du conseil d'administration, qu'il a annoncé sa volonté de se constituer partie civile dans un dossier qui progresse. Lundi, je vous avais expliqué qu'on attendait la décision d'un juge, puisqu'on avait la fiscalía qu'on appelle le ministère public espagnol qui accusait le Barça. Il fallait savoir si le juge de Barcelone chargé de l'affaire allait dire il y a assez de preuves pour y aller plus loin. Et ben il va plus loin. Donc c'est une affaire qui chaque jour on apprend de nouvelles choses et chaque jour ça pue un peu plus pour le Barça. Le Real était obligé de réagir. Le Real a annoncé qu'il allait se constituer partie civile. Et donc, le Barça, en représailles, a décidé de ne pas organiser le typique déjeuner entre les dirigeants. Vous savez, le match a lieu à 21h. Normalement, à 14h, il y a un déjeuner, ça se fait tout le temps. Mmh. Et Florentino Pérez a décidé de ne même pas aller au match. C'est-à-dire que Florentino Pérez va à tous les matchs. Et là, il sera pas présent dans la tribune d'honneur. Il sera présenté par un vice-président, et Butragueño, qui est le porte-parole du club. Mais c'est important, les supporters sont contents. Je peux vous dire que c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est-à-dire que Laporta et Pérez sont toujours cul et chemise parce qu'ils ont un ennemi commun qui s'appelle Tebas, le président de la Liga, et ils ont un objectif commun qui s'appelle la Super League. Donc, mais vous savez, il y a la pression des supporters est telle qu'ils sont obligés de faire ce qu'on appelle en espagnol le paripé. Ils sont obligés de faire d'une sorte de théâtre et de montrer que non, ils sont en guerre, etc.
Mais alors personne n'y croit en fait, c'est ça.
Une sorte. Mais si les gens y croient, mais
les gens y croient quand même. Croient.
Okay. Mais moi, moi, je vous donne mes infos.
D'accord.
Je parle à des gens et on sait très bien que, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que comme le Real ne réagissait pas à ces annonces très très dures contre le Barça de la justice espagnole et du fisc, qu'il y avait une pétition lancée par des socios, c'est-à-dire socios qui sont les vrais propriétaires du club, puisque ce sont les membres actifs du club qui possèdent le club, une pétition commençait à circuler, 17 000 signatures avaient été recueillies pour obliger le conseil d'administration à prendre partie dans cette affaire. Et comme il y avait en plus des pétitions qui allaient être signées juste avant le match contre l'Espagnol à Bernabéu, le matin même, le club a décidé de faire cette déclaration parce qu'il fallait calmer les supporters. On est dans deux clubs ultra politiques puisque les présidents sont élus. Et quand on est politique, il faut faire de la com. Donc, demain, il y a de la com, il n'y a pas le déjeuner, et puis le président du Real va pas aller voir le président du Barça, alors qu'ils se parlent tous les jours au téléphone.
21h pour le match. Barça-Real demain, 21h, on suivra ça dans l'after, à côté de ce Reims-Marseille en Ligue 1. Dans un instant, on revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, pour le Real, avec toi, Fredo. Mais demain, c'est aussi un gros match en Serie A, le derby d'Italie. Ce serait d'ailleurs un duel pour la place de dauphin, Johan, si la Juve n'avait pas pris ses 15 points de pénalité. Inter-Juventus, 20h45. D'ailleurs, c'est le premier affrontement d'une longue série entre les deux qui vont plus se quitter, puisqu'il y a la Coupe d'Italie qui va arriver le mois prochain. C'est lequel d'ailleurs finalement le plus important pour ces deux clubs?
Ça va être celui du championnat, sincèrement, parce que ok, la Coupe d'Italie en aller-retour c'est important, et à la fin on est très proche d'un trophée puisqu'il ne restera que la finale pour celui qui se qualifiera, mais la Ligue des Champions c'est trop important, c'est beaucoup trop important pour ces clubs-là. C'est important sportivement évidemment, mais ça c'est un peu logique. C'est important économiquement aussi. Très important économiquement pour l'Inter et pour la Juve, qui sont pas dans leur meilleur passe économique. On parle de la recapitalisation boursière de 400 millions d'euros de la Juve il y a un peu plus d'un an. On parle des difficultés de la famille Zhang à vraiment autofinancer le club de l'Inter. Et donc, c'est clairement ce match de demain qui est le plus important. Alors, la Juve, on parle des 15 points de pénalité. Attention, on verra si fin avril, ils seront confirmés ou à l'inverse, s'ils seront supprimés, ces 15 points de pénalité. Auquel cas, la Juve reviendra tout en haut et ça nous donnera une autre perspective sur la course à la Ligue des Champions. Mais c'est un match ultra important. C'est deux équipes qui, j'allais dire, vont pas très bien dans le jeu, où il se passe pas grand chose, où ça gagne des matchs vraiment, soit ça gagne, soit ça fait des qualifications. Je parle pour l'Inter en Ligue des Champions, vraiment à l'arraché avec une grosse part de réussite, si on veut pas parler de chance dans le foot, mais en tout cas de réussite.
C'était une loterie un peu.
Ouais, c'est ça. Mais sincèrement, je suis pas certain qu'on atteindra des systèmes de jeu, pas un système, mais un maximum de jeu, un maximum de divertissement, de spectacle, parce que c'est pas forcément des équipes qui vont bien. Je pense que l'Inter, en plus, va encore plus verrouiller parce qu'il va manquer Skriniar et Bastoni derrière. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que, Parce que ça change tout au niveau défensif, parce que Skriniar, on sait maintenant qu'il est remplacé un peu par Darmian, qui est plutôt un latéral. On sait que, avec l'absence de Bastoni, c'est Acerbi qui va glisser côté gauche dans la défense à 3, lui qui joue plutôt axial. Et donc, dans l'axe, c'est De Vrij qui joue quasiment plus, qui va revenir. C'est complexe dans une zone où il va y avoir Di Maria. On ne sait pas si ce sera Di Maria plus Chiesa, juste Di Maria. A priori, ça sera ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. On sait que Massimiliano Allegri est très frileux, hein, messieurs. Je vous l'apprends pas, je le répète suffisamment.
Ah bon.
Donc, malheureusement, on n'aura pas Evlaovic et Di Maria et Chiesa a priori.
Vous vous rappelez d'un joueur, là je m'adresse à tout le monde, comment s'appelait-il déjà? Paul Pogba, oui, voilà, c'est ça.
ça fait longtemps tout ça. C'est quand j'étais jeune.
Oui, c'est ça, à l'époque, vous vous souvenez à l'époque.
On Johan, s'agace à la Juve. Hein,
à un moment donné, on a cru qu'il reviendrait et il en est où là, Pogba?
Bah, il s'est reblessé avant le dernier match. La Rifinitura en Italie, c'est le dernier entraînement avant le match. Il s'est reblessé, blessure musculaire à la cuisse, 20 jours d'arrêt. Donc, on verra après la trêve s'il est en capacité de revenir ou pas. Mais il y a un chiffre qui est assez terrible pour Paul cette saison, c'est 35 minutes jouées. Voilà, c'est le deuxième chiffre qui est tout de suite à côté en Italie, vous les connaissez, c'est 10 millions de salaire net annuel.
Ça fait combien de minutes alors? Moi, je suis nul en maths.
Je me rappelle plus, ils l'ont sorti, je crois, mais c'est genre 250 000 euros la minute ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais.
Oh, c'est à peu près ce qui est payé Thibaut Jean-Grande.
Ouais. Et encore, t'imagines, moi, je suis que le remplaçant, donc imagine le numéro 1.
Non, mais c'est terrible parce que la Juve avait vraiment beaucoup misé sur lui dans cet esprit de refondre le milieu de terrain avec Paredes d'ailleurs. Les deux sont vraiment aujourd'hui dans des situations différentes parce que Paredes, c'est pas pour blessure, mais lui, il est passé derrière tous les jeunes de la Juve au milieu de terrain. Derrière Barrenechea, derrière Miretti, derrière Fagioli, ces joueurs-là aujourd'hui sont devant Paredes dans la hiérarchie. Et Paredes et Pogba, c'était les deux joueurs sur qui la Juve comptait pour aller donner un nouveau coup de fouet au milieu de terrain avec Locatelli. Et finalement, on les a pas du tout.
Un mot rapidement, on va être pris par le temps, mais Fred, j'aurais commencé par le tenant du titre. On dit quoi à Madrid de tirage au sort, ce quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea?
Bah, on regarde la demi-finale et on dit que ça va être difficile.
Ouais. On se projette déjà aussi loin?
Bah oui, parce qu'en fait, Chelsea, c'est plutôt un bon tirage. Même si
Il y avait pire quand même, enfin, il y avait mieux, je veux dire.
Il y avait mieux, mais il y avait pire quand même. Hein. Si tu tapes City, si tu tapes le Bayern, ou si tu tapes Naples, on aime beaucoup Naples, hein, du côté de Madrid. Ouais. Et on se dit que c'est Naples peut aller très loin. Puis ils sont dans c'est comme au tennis, hein, ils sont du bon côté du tableau. Hein. Mais c'est vrai que le Real Chelsea, ce qui fait peur, c'est que le match retour est à Londres. Alors qu'on sait que l'an dernier, toutes les remontadas, tout ça, c'était à Bernabéu. Donc là, c'est considéré comme un gros désavantage. Et puis on se dit que même si Chelsea, ça devrait passer, t'as City ou le Bayern en demi, avec le retour, pas à la maison. L'aller à la maison et le retour à Munich ou à Manchester. Donc, mais bon, comme on dit toujours à Madrid, hein, quand on arrive en quart, on dit, plus quatre matchs pour la finale. et puis la finale, de toute façon, le Real la gagne. Donc, mais franchement, le chemin va être très, très dur.
Ouais. Et tiens, j'aimerais savoir ce qu'on dit en Italie, parce que les Italiens, c'est un peu les rois du tirage. Forcément un club en demi, trois chances sur quatre d'être en finale, même. Donc, Inter, Benfica et AC Milan, Napoli. Est-ce que l'Italie retrouve un peu le sourire grâce à cette Ligue des Champions, une Italie qui a tant souffert, Johan, ces dernières années?
Oui, ça c'est clair. Hein. Ça fait très longtemps que l'Italie n'a pas eu autant de clubs à ce stade de la compétition. Il y en a eu beaucoup au début des années 2000. On a eu souvent trois clubs italiens, mais depuis, c'était un peu morne pleine en Italie. On est très content. On attend beaucoup, bizarrement, plutôt le Napoli-Milan, parce que évidemment, quart de finale, 100% club italien. Même si j'ai cru comprendre que ça emballait pas autant que l'auto-proclamé finale avant l'heure City-Bayern. Alors que bon, on a quand même affaire au club qui a marqué le plus de buts. Qui a mis 15 buts à 3 des 4 clubs qui étaient en finale des Coupes d'Europe la saison passée. Bon, apparemment, c'est pas
sûr. Tu sais, Johan, après, c'est quand même le plus gros match, les gars.
Ah bon, je sais pas.
Bayern City, c'est la finale avant l'heure.
Bon. Didier, celui qui va peut-être gagner sa 15e Ligue des Champions. Mais tu sais qu'en Espagne, Johan, les supporters se réjouissent du retour au premier plan du football italien.
Oui, c'est normal. C'est un pays très important pour le football, pour son développement, pour l'économie, pour tout en fait. Et quand tu as un pays qui souffre autant pendant une dizaine d'années, qui n'est plus capable d'amener des clubs, hormis la Juve, à deux reprises en finale, très loin dans la compétition, bah forcément c'est décevant, c'est dur pour les Italiens, c'est l'autoflagellation en permanence, et donc là forcément trois clubs en quart de finale, ouais. Tout le monde est ravi et attend ça avec une très grande impatience, au point où même ce soir, les questions à Pioli après la défaite du Milan, ça tourne autour de la Ligue des Champions, où tout le monde dit est-ce que vous n'avez pas été distrait par ce quart de finale à venir. On est clairement maintenant dans l'esprit tourné sur la Ligue des Champions.
Avec Zlatan qui a marqué malgré cette défaite, ouais. 41 ans. Johan, Fredo, merci beaucoup les gars. On vous retrouve
les amis.
En longueur
salut
lundi soir. Salut les gars, 20h-22h, Génération After spécial Drôle de Dame. Kevin Lio, merci les gars.
Salut à tous.
Samedi
ciao
prochain.
Thibault, salut Kevin.
Bonne nuit
salut
à tous. Merci à Max, à Toto en régie, à Adrien Stand. Et merci surtout à vous tous d'avoir été là, fidèles au rendez-vous comme tous les jours sur RMC. Bonne nuit l'équipe. Ciao.